Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast où nous allons voir les 6 astuces pour maximiser l'exonération des droits de succession. Alors comme promis, suite au dernier épisode consacré justement à l'exonération des droits de succession, plutôt sur des stratégies sans SCI justement, là nous allons voir tout ce que la SCI pourra faire pour nous aider dans ce sens. Alors les caractéristiques d'une SCI, c'est-à-dire la société civile immobilière, lui confère des possibilités extrêmement intéressantes pour optimiser la transmission de son patrimoine sans passer par la case impôt sur la donation ou la succession, ou tout du moins en réduire considérablement le montant. Alors cet épisode traite en fait des techniques les plus courantes de transmission en utilisant une SCI et non de l'ensemble des cas possibles qui serait très complexe de lister ici de manière exhaustive. Alors pour bien comprendre ce que je vais dire dans cet épisode, je vous demanderai plutôt d'aller écouter en fait l'épisode précédent qui était consacré à l'exonération des droits de succession pour bien comprendre les certains termes notamment qui vont être repris dans cet épisode, justement qui ne vont pas être à nouveau réexpliqués. Donc voilà, dans tous les cas, encore une fois, il conviendra de consulter un notaire pour vous informer précisément de vos droits et devoirs en termes de succession. Première astuce, une SCI permet de profiter de l'intégralité des abattements successifs lors des donations du vivant. Alors une SCI, ou la société civile immobilière en fait, pour replacer un peu dans le contexte, c'est une société civile dans laquelle plusieurs personnes, donc les associés, décident de mettre en commun un ou plusieurs biens immobiliers afin d'en partager les bénéfices et de profiter de l'économie qui pourront en résulter. En termes de gestion de patrimoine, en fait, sur le long terme, on a toujours intérêt à scinder en plusieurs fois la transmission pour profiter justement plusieurs fois des abattements de transmission qui se renouvellent actuellement, donc à l'heure où j'enregistre cet épisode, tous les 15 ans. Je dis ça parce que l'État français peut très bien modifier cette temporalité à tout moment, puisqu'il a déjà modifié, c'était de 6 ans auparavant à 10 ans, et maintenant c'est tous les 15 ans seulement que justement on peut être exonéré de droits forfaitairement. Donc si la transmission se fait sans SCI, de manière classique avec des appartements ou des maisons ou des immeubles, il est très difficile en général de réaliser des donations qui correspondent pile poil aux abattements. Dans le cas d'une SCI, le capital étant divisé en parts, on peut très bien transmettre son patrimoine progressivement et adapter la valeur de la transmission à celle de l'abattement. Et donc ça, c'est vraiment l'intérêt justement de la SCI. Et prenons un exemple, Monsieur Durand possède un appartement de 150 000 euros, il souhaite faire une donation de son vivant à son fils. Déduction faite de l'abattement forfaitaire de 100 000 euros, donc 100 000 euros c'est l'abattement auquel a droit l'enfant tout simplement lors d'un héritage. La base imposable est de 50 000 euros, puisque 150 000 moins 100 000 euros d'abattement, il reste 50 000 euros. Et donc le fils de Monsieur Durand devra donc payer de son vivant à 8194 euros de droits de donation. Mais si Monsieur Durand intègre le bien dans une SCI, il peut très bien transmettre à son fils un nombre de parts correspondant au montant de l'abattement, c'est-à-dire 100 000 euros, et lui conserve le reste, il conserve les autres parts, et cela évite tout simplement de passer à la caisse des impôts. Il pourra aussi renouveler l'opération dans 15 ans, soit en donnant un autre bien avec des parts équivalent à 100 000 euros pour ces nouveaux biens, ou alors donner le restant des parts qui restait sur ce bien. Deuxième astuce, la SCI permet de réduire les droits de donation via la déduction des dettes liées au bien. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? La dette liée au bien, en fait, tout simplement, c'est un crédit immobilier. Si vous achetez un immobilier, souvent, vous allez acheter à crédit, c'est ce qu'on fait d'habitude. En matière de succession et de donation, la dette, en fait, la dette du crédit, elle est liée à un bien acheté en nom propre et en indivision et ne peuvent pas toujours être déduites justement de la valeur du bien pour le calcul des droits. Donc, c'est le calcul des droits de succession ou de la donation. Dans le cas d'une SCI, c'est là où c'est intéressant, si le bien est possédé par une société civile, la valeur des parts sociales tient compte du passif supporté par la société. Autrement dit, la dette correspondant au montant du capital restant dû du crédit immobilier ne sera pas prise en compte dans le calcul de la base imposable des droits de succession ou de donation. Pour mieux comprendre, voici un exemple. Monsieur Dupont, il achète en nom propre un appartement de 400 000 euros. Pour cela, il a emprunté la moitié. Il a emprunté 200 000 euros et il a 200 000 euros d'apport. Donc, quand Monsieur Dupont va transmettre son bien, ce sera calculé sur une base de 400 000 euros. Donc, bien sûr, il y aura un abattement, mais il y aura quand même 300 000 euros de base imposable, ce qui est vraiment énorme, avec des gros frais de succession derrière. Tandis que si Monsieur Dupont crée une SCI au capital de 200 000 euros, puisqu'il emprunte 200 000 euros pour acheter l'appartement, alors les parts sociales valent uniquement dans ce cas-là 200 000 euros, c'est la valeur apportée réellement par Monsieur Dupont. Donc, dans le cadre d'une transmission du vivant, Monsieur Dupont lui va donner uniquement les parts de la SCI. Et donc, on aura uniquement une valeur qui équivaut à 200 000 euros et donc une forte diminution des droits de succession en comparaison aux droits qui seraient payés en nom propre. Voilà, puisque la base imposable sera plus que de 200 000 euros et les enfants à terme hériteront bien sûr d'un bien de 400 000 euros puisque ce bien est à crédit. Donc voilà, troisième astuce, créer une SCI familiale pour transmettre une fraction du patrimoine locatif aux enfants tout en gardant l'usufruit et tout en évitant l'impôt sur la donation et la succession. Donc voilà, il y a plusieurs choses dans cette astuce. Dans le cas d'un patrimoine comportant plusieurs biens, la stratégie du démembrement, alors pour comprendre ce que c'est le démembrement, je vous invite à faire un tour dans le précédent épisode du podcast. La stratégie du démembrement, quand on le fait sur plusieurs biens, ça peut s'avérer un peu laborieux puisque il faut l'appliquer à chaque fois, à chaque bien. Dans le cadre d'une SCI, finalement, comme on a plusieurs biens dans la SCI, il suffit justement d'établir une fois les règles du démembrement des parts de la SCI posées et tous les biens après sont concernés par ce démembrement. Donc, c'est beaucoup plus facile et le travail est à faire qu'une seule fois. Donc, prenons un exemple, encore une fois, Monsieur Dupont qui a 62 ans, possède un patrimoine immobilier locatif de 300 000 euros et il souhaite effectuer la transmission de son patrimoine locatif, mais il ne souhaite pas se priver de ses loyers. Parce que pour lui, ça constitue tout simplement un bon complément de retraite. Alors, pour ce faire, il peut transmettre uniquement la nue propriété de ses biens. Du fait de son âge, donc il a moins de 70 ans, la nue propriété sera évaluée à 60% de sa valeur, de la valeur du bien. La structure juridique la plus adaptée ici, donc ça va être effectivement la société civile immobilière pour intégrer les biens locatifs. Une fois la structure de SCI créée, Monsieur Dupont et ses enfants s'associent pour créer cette SCI et Monsieur Dupont apporte la pleine propriété des biens locatifs, puis les parts sont démembrées afin que la nue propriété puisse être attribuée aux enfants. Donc, le père, M. Dupont, conservera l'usufruit, ce qui lui permettra justement de continuer à percevoir les loyers. Dans ce cas-là, M. Dupont doit conserver une part de pleine propriété pour s'inscrire en tant que gérant statutaire de la SCI et rester maître de la gestion de son patrimoine. Ça, c'est vraiment important pour qu'il puisse garder en fait le contrôle de son patrimoine, même s'il a perdu la nue propriété. Donc, la nue propriété des biens étant évaluée à 60% de la valeur de 300 000 euros, c'est-à-dire 180 000 euros, ce montant est réparti à parts égales entre les deux enfants, soit 80 000 euros par enfant. Donc, compte tenu de l'abattement de 100 000 euros par enfant au moment de cette donation qui a lieu au moment du démembrement finalement, puisque les enfants vont recevoir la nue propriété des biens, et donc la nue propriété, 90 000 euros par enfant en dessous de la valeur de l'abattement, donc ils ne paieront pas de droit de succession. Notez que si les enfants devaient payer un droit de succession, dans le cas d'une part plus importante supérieure à l'abattement de 200 000 euros, dans ce cas-là, Monsieur Dupont, lui, aurait pu régler cette part pour eux. C'est-à-dire, il peut très bien régler la part de l'impôt pour ses enfants. Donc ça c'est uniquement juste à préciser à l'administration. Donc après cette première donation, imaginons 15 ans plus tard, aux 77 ans de Monsieur Dupont, donc 15 ans plus tard après la première donation via la SCI, les enfants rechargent en quelque sorte leur abattement de 100 000 euros dont ils pourront bénéficier dans le cas d'un, par exemple d'une deuxième donation. Au moment de la succession, les enfants récupéreront la pleine propriété des biens immobiliers locatifs de la SCI, et c'est ça qui est intéressant, sans droit supplémentaire à payer, c'est-à-dire que la part d'usufruit qui leur revient au moment de la succession ne passe pas, dans le cas d'un démembrement, par la case impôt. Et ça, c'est vraiment très très intéressant. Notez tout de même que la création d'une SCI peut coûter quand même un certain coût, entre 3 000 et 5 000 euros, pour la rédaction de l'acte et l'enregistrement des statuts auprès du notaire. Quatrième astuce, la SCI permet une transmission astucieuse et avantageuse fiscalement entre concubins et également une protection efficace du survivant par démembrement croisé des parts. Ça, c'est un cas particulier de démembrement, justement. On a vu précédemment l'exonération pour les enfants. On peut très bien imaginer un démembrement croisé des parts qui peut permettre une exonération fiscale entre conjoints qui ne sont pas mariés, puisque si justement on est marié, il y a des avantages justement via le contrat de mariage ou via le PACS également. Mais entre concubins non mariés justement, la SCI présente cet avantage de pouvoir défiscaliser la donation ou la succession. Prenons l'exemple de Monsieur Dupont et de Mademoiselle Martin qui constituent une SCI en se répartissant l'usufruit et la nue propriété de 100 parts. Monsieur Dupont prend l'usufruit des parts numéro 1 à 50 et la nue propriété du reste des parts, donc 51 à 100. Et Mademoiselle Martin, donc sa concubine, fait l'inverse. Elle prend l'usufruit des parts 51 à 50 et la nue propriété des parts 1 à 50. Au décès de Monsieur Dupont, Mademoiselle Martin héritera de la pleine propriété, donc des parts 1 à 50, sans payer de droits de succession. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et elle conservera l'usufruit des parts qu'elle a déjà, c'est-à-dire 51 à 100, dont la nue propriété sera répartie entre les héritiers du défunt, c'est-à-dire ses enfants, s'il en a justement, s'il en a d'une précédente union par exemple. Il pourra donc conserver, Madame Martin, elle pourra donc conserver la pleine jouissance de son logement, c'est là où intervient sa protection dans le mécanisme. Elle est protégée puisqu'elle garde le logement, elle peut très bien continuer à y habiter, ou si c'est un logement locatif, elle continuera à profiter des loyers. Cinquième astuce, une décote de 10% pour les SCI. Effectivement, la part des sociétés civiles immobilières présente l'avantage de pouvoir faire l'objet d'une certaine décote. On parle de 10% de décote par rapport à la valeur des biens qu'elle possède, au motif qu'il est souvent beaucoup plus difficile de vendre des parts d'une SCI en fait que de vendre un bien entier. Par conséquent, il en résulte en fait une diminution de l'assiette de calcul des droits de donation et de succession, ce qui représente tout simplement une diminution au final de l'impôt. Et ça, voilà, c'était la cinquième astuce. Pour finir, la sixième astuce, c'est ce que j'appellerais l'astuce, c'est la cerise sur le gâteau en fait. C'est on a en fait un arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2009. Je mettrai le lien, si ça vous intéresse, dans les notes du podcast, qui porte sur une SCI et qui nous dit que la SCI devient en fait un moyen encore plus efficace de transmettre le fruit de son patrimoine avec une totale exonération des droits de succession. En fait, ça vient d'un cas qui s'est passé où des parents ont décidé d'associer leurs enfants à la SCI et en utilisant le démembrement des parts, l'usufruit revenant aux parents et la nue propriété aux enfants, tout en affectant, et c'est là où l'astuce rentre en jeu, tout en affectant le résultat de la société en réserve. Et donc, en réserve, c'est le compte de réserve, en fait, pendant le temps de la gestion. C'est-à-dire que tous les loyers vont être, tous les produits de la société, en fait, vont être mis en réserve. Ils ne vont pas être, et ils vont pas être touchés par les gestionnaires. Ils vont être mis en réserve sur le compte de réserve de la société. Cette stratégie, en fait, permet de capitaliser les revenus, hein, les loyers de la société, sur plusieurs années, de façon totalement défiscalisée pour la succession, car la réserve n'est pas soumise au droit de succession. Et ça, c'est vraiment intéressant, car c'est ça qui permet justement d'exonérer, si tu veux, un cash, de l'argent, des loyers qui ont été mis de côté pendant des années, qui pourraient être transmis de cette manière-là, sous la forme d'un capital mis en réserve, à ses héritiers. Donc, il convient en revanche de bien respecter scrupuleusement les critères posés par la Cour de cassation, c'est-à-dire que les assemblées doivent être à jour, c'est-à-dire se tenir tous les ans, et être consignées dans le registre officiel des délibérations au niveau de la société. Et le résultat de la société doit impérativement être affecté en réserve et pas sur le compte courant d'associés des usufruitiers, car ces derniers en fait empêcheraient toute exonération, puisque les comptes d'associés, contrairement à la réserve, ils sont soumis à déclaration au moment de la succession des parents. Donc les comptes courants d'associés, eux, ne seront pas exonérés d'impôts. Donc voilà, peut-être que tu as eu les oreilles qui ont un peu chauffé avec ces deux derniers épisodes du podcast consacré à la succession. Ce sont vraiment des sujets qui prennent la tête, hein. C'est des sujets très complexes, la réglementation est très compliquée, mais on se doit, en tant qu'investisseur, entrepreneur responsable, en tant qu'investisseur gagnant justement, de s'intéresser à ces sujets-là. C'est pour ça que je voulais te partager un peu le fruit de mes recherches sur ces réflexions, qui vont permettre sans nul doute te permettre d'optimiser tout simplement la transmission de ton patrimoine de génération en génération. Voilà, j'espère que tu as aimé cet épisode. Avant de te quitter, je te rappelle que tu peux toujours télécharger mes deux guides sur l'investissement immobilier en bas de la page d'accueil de mon blog qui s'appelle investissementimmobilierfacile.com. Le premier guide pour te permettre de réussir ton premier investissement immobilier, le second qui explique comment investir massivement dans l'immobilier pour pouvoir se constituer un patrimoine de plus de 500 000 euros en moins d'un an et sans apport, le tout en partant de zéro. C'est exactement ce que j'ai fait dans mon propre parcours et ce que je t'explique dans ce guide. Tu peux les télécharger. Donc si toi aussi tu souhaites investir dans l'immobilier, mais que justement le challenge te semble trop compliqué pour te lancer ou pour réaliser ce type d'opération tout seul, moi je propose une session de coaching pour faire le point sur les objectifs, sur les meilleures stratégies à adopter pour réussir l'investissement immobilier. Et vous trouverez toutes les informations justement à la fin du guide. Voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode du podcast. Portez-vous bien et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao !